par à Dieu. Je voudrais aller avec vous dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 16e et au verset 13. Matthieu, chapitre 16 et le verset 13. Et j'ai intitulé le titre de ce message ce matin, « Les réalités célestes ». Les réalités célestes. Nous avons à faire face à des réalités terrestres, mais nous avons besoin de considérer qu'il y a également des réalités qui viennent du ciel, des réalités qui viennent d'en haut. Et elles sont beaucoup plus importantes pour notre foi que les réalités d'en bas. Alléluia. Nous allons voir comment le Seigneur va instruire ses disciples au sujet de ces choses. Et il me semble que le peuple de Dieu a encore besoin d'entrer dans cette dimension, d'être renouvelé dans ces dimensions des réalités du ciel, des réalités célestes. Et nous allons donc, Matthieu chapitre 16, les versets 13, il nous est dit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On va au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Chapitre 17, verset 1er. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour moi, pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha, dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Et ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et puis on va au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous y aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes face au ministère, normal du Seigneur. Alléluia, où il y a des miracles, où le Seigneur chasse les démons, rétablit ce qui a été tordu, cassé, brisé. Il accorde sa victoire à une humanité qui est rebelle et il la réconcilie avec lui-même. Alléluia. Mais je voudrais revenir à notre thème qui est celui-ci, les réalités célestes. Et vous avez vu que Jésus va révéler à ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, une vision céleste. Il va donner de lui une vision de ce qu'il est dans toute sa gloire, ou du moins un aspect, parce que lorsque nous lisons d'autres apparitions, d'autres visions de Jésus tel qu'il est dans sa gloire, notamment dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jean le voit, l'Écriture nous dit qu'il tomba à terre comme mort. C'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, on va le voir ensemble, mais Jésus-Christ est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, alléluia. Et les chrétiens du Nouveau Testament étaient celles de ceux qui disaient « Mais Jésus-Christ est Seigneur !» Tous les hommes, certains hommes peuvent dire « Je suis le maître, je suis l'empereur, je suis le président, mais il y a quelqu'un, une autorité qui dépasse toutes celles de la terre, c'est l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia !» Et nous avons besoin d'entrer, mes frères et sœurs, dans la réalité de ces choses célestes. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, il fera référence à ce qu'il a vu sur cette montagne. Et il parlera de la puissance, de la majesté, de la gloire magnifique de Jésus. Et nous avons besoin, nous aussi, d'être entraînés dans ces choses. Je crois que vraiment, le peuple de Dieu a besoin, tandis que nous sommes harcelés de nouvelles qui viennent d'en bas, comme je le disais tout à l'heure, nous avons besoin d'être rafraîchis par une bonne nouvelle qui vient du ciel. Alléluia. On ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe sur la terre. Et selon moi, ça serait une erreur de ne pas s'informer, de ne pas être au courant. On n'est pas dans notre petite bulle évangélique en train de dire « je vais bien, tout va bien », etc. On est dans un monde et le Seigneur nous a demandé d'être dans ce monde, même ordonné d'être des témoins. Nous devons être au contact des hommes et des femmes de ce monde qui ont besoin de rencontrer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Mais cependant, il y a également un défi que nous devons remporter, c'est que ces nouvelles, cette influence qui vient d'en bas de la terre ne nous contamine pas, ne nous influence pas de telle sorte que nous ne soyons des hommes et des femmes qui sont sans espérance et sans Dieu. Ça serait complètement anormal d'élever le nom de Jésus, de bénir le nom du Seigneur et de se retrouver comme étant dans la défaite. D'ailleurs, vous avez remarqué que lorsque les disciples vont manifester leur incapacité à vaincre une situation ténébreuse, Jésus va leur en faire le reproche. « Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Et il leur dira « Mais c'est à cause de votre incrédulité. Dans le fond, je suis avec vous, mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas que je sois capable de changer. Bien sûr, vous me suivez. Bien sûr, vous m'entendez. Bien sûr, vous voyez les miracles. Mais quand il s'agit, vous, de mettre votre foi, une foi conquérante, une foi vivante, je constate, il manque quelque chose. Et moi, et comme vous, ça m'interpelle. Parce que quand je vois Pierre, quand je vois Jacques et Jean, je me dis, si des hommes de cette qualité-là, le Seigneur a pu leur faire certains reproches, peut-être que, Seigneur, tu es en train aussi de me reprendre. Et on a besoin de se remettre en question et de revenir aux réalités célestes, mes frères et sœurs. Alléluia. Et peut-être quelqu'un passe-t-il ou vit-il avec une espèce de compromis qui t'éloigne du Seigneur, qui t'attiédit dans la foi, mais le Seigneur veut te bénir, alléluia. Bien sûr, dans le contexte immédiat, le Seigneur va les conduire, on va le voir sur une montagne, parce qu'il y a une chose qu'ils ne comprennent pas, les disciples. Nous, on le comprend, le sacrifice. Jésus devait mourir à la croix pour nos péchés, payer. Mais eux, la crucifixion, que Jésus soit crucifié, ils ne le comprenaient pas. Et il faut se mettre à leur place. À cette époque, c'était les criminels. C'était une mort horrible que d'être crucifié. C'était abominable. Le Fils de Dieu crucifié, mais c'est pas possible. Et Jésus leur annonce toutes ces choses. Il les prévient, il les éduque. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 nous dit que il est devenu péché pour nous. Mais c'est l'amour de Dieu. Il a changé la malédiction en bénédiction. Alléluia. Amen. Vous êtes là, alléluia, hein. Jésus était à la croix. Mais eux, ils sont pris par aveuglés par la croix, la réputation, le message à l'époque romaine de ce que c'était que la croix. Et Jésus a besoin de les élever afin qu'ils comprennent. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on parle de ces choses célestes. Je voudrais qu'on parle de notre vocation céleste. Je voudrais qu'on parle de cette bénédiction qui est céleste. Je voudrais qu'on parle du royaume céleste. Je voudrais qu'on parle de la puissance, ou plutôt du bonheur céleste. Alors tout d'abord, la vocation céleste. Le mot, je l'invente pas, parce que Hébreux chapitre 3, verset 1 dit ceci: « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Il nous est dit, donc, si je résume, vous qui avez part à la vocation céleste, considérez Jésus. Et je suis persuadé que dans le cœur de plusieurs, le Saint-Esprit agit pour te dire, mais je t'appelle, je t'appelle. Il y a un puissant appel dans ton cœur, dans ta vie, afin que tu cesses de te préoccuper seulement des choses d'en bas, pour entrer dans une nouvelle dimension et considérer les choses d'en haut. Vous savez, toute vie spirituelle, toute vie chrétienne prend un essor remarquable dès lors qu'on s'occupe des choses d'en haut. Lorsqu'on prend du temps à s'occuper des choses d'en haut, les choses du ciel. Vous savez, Moïse est devenu l'homme de Dieu qu'il a été lorsqu'il a commencé à se détourner de ses affaires pour s'occuper de la vision que Dieu lui donnait dans la flamme du buisson ardent. Voyez, tout a changé pour Saul de Tarse lorsque la vision de Jésus-Christ glorifié dans sa gloire s'est manifestée. Et lorsque je lis, par exemple, dans le livre des Actes, je n'ai plus la référence devant moi, si acte 26 et le verset 19, il dira « Je n'ai pas résisté à la vision céleste ». Moi, je combattais le fait qu'on puisse dire que le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, ce soit Jésus et qu'il aille jusqu'à la croix. Mais lorsque ces choses m'ont été révélées, mais je n'ai plus résisté. Il y a une résistance intellectuelle. Il y a une résistance peut-être de ton éducation. Mais le Seigneur t'appelle. Il y a une vocation céleste. Et lorsqu'on est dans cette présence de Dieu et que tu peux entendre, comme ces hommes ont pu entendre, la voix de Dieu, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais il y a une puissance, il y a une force, il y a une conviction dans ton cœur. Alléluia ! Amen ! Et on a besoin de répondre à cet appel. Cet appel, ce n'est pas l'affaire de quelques-uns. Ce n'est pas l'affaire d'une élite privilégiée que Dieu aurait choisie comme ça, mais Dieu veut se révéler à chacun. Alléluia. Il veut faire profiter de ses bontés, de la vie de l'Esprit. Alléluia. Et il me semble que l'adversaire actuellement est en train de contraindre son peuple à regarder les choses d'en bas. Vous savez, dans la Bible, il y a une femme qui était libérée, elle était possédée d'un esprit qui la tenait courbée. Et la tenait courbée. Elle peut vous voir que les choses... Alors, attention, un chrétien ne peut pas être possédé. Mais il peut être influencé. Il peut être influencé. Inquiet. Pétri d'anxiété à considérer uniquement les choses. Mais vous ne comprenez pas si je ne suis pas au courant. Si je ne me tiens pas super informé, mais ça peut être dangereux pour moi. Et l'Écriture nous parle de cette femme qui était courbée et elle voyait que les choses d'en bas. Elle ne voyait que les choses. Et Jésus a fait une œuvre dans sa vie. Il l'a redressée. Alléluia. Et peut-être que quelqu'un a-t-il besoin tout simplement d'entendre l'appel. Vous savez, elle pouvait pas voir, mais elle pouvait entendre. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et cette femme s'est relevée. Enfant de Dieu, la victoire, elle n'appartient pas au monde. La victoire, elle n'appartient pas au diable. La victoire, elle appartient au Fils de Dieu. Alléluia. Redresse-toi. Relève-toi. La Bible nous dit, vous connaissez par cœur ce psaume, psaume 34, verset 6, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Ces réalités célestes, elles sont capables de fortifier l'âme, la foi de l'homme, de la femme qui passe par les plus grandes tribulations, les plus grandes difficultés. Pourquoi ? Parce que rien n'est impossible au Seigneur. Alléluia. Quelle que soit la situation que vous traversez, peut-être de maladie, peut-être de conflit personnel dans une famille, peut-être au niveau d'un couple, au niveau, peut-être même de l'anxiété, au niveau des études, je ne sais quoi, au niveau matériel. Et on comprend que ces choses-là, elles existent. Mais quelle que soit la situation que vous traversez, sachez que si le niveau de votre épreuve est là, Jésus est toujours au-dessus. Alléluia. Amen. Regardez, on va prendre le temps de lire la Bible. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 16. 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 16, il nous est parlé, c'est l'expérience de... Alors cet homme de Dieu qui est une référence pour nous, c'est l'apôtre Paul. C'est vraiment un modèle de foi. Et il nous est dit ceci, je le lis, 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, aux choses de la terre, aux choses en bas, mais nous regardons aux choses, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Alléluia. Et la conséquence de ça, c'est qu'on lit dans 2 Corinthiens toujours, au chapitre 2 et au verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alléluia. S'il y a un homme qui était éprouvé, c'est bien l'apôtre Paul. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous lirez au chapitre 6, lorsqu'il parle des tribulations, des calamités, des coups, des prisons, des séditions, etc., et de toutes sortes d'autres choses encore. Eh bien, nous voyons que lui parle de ces légères afflictions du temps présent. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il relativise à ce point? Parce qu'il voit la gloire à venir. Alléluia. Et mes frères et sœurs, il me semble réellement que nous avons besoin, eh bien, de voir ces choses d'en haut. Alléluia. On va y revenir tout à l'heure, j'ai un témoignage à vous donner. Mais ces choses à venir, cette gloire éternelle, elles sont capables de fortifier l'âme, la foi du cœur le plus abattu. Alors vous allez me dire, oui, mais la croix là-dedans, quel est le rapport? Vous me parlez de la gloire. Alors, je lis avec vous, Hébreux chapitre 1, verset 3. Jésus, Jésus-Christ, a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il y a une relation là, l'œuvre de Jésus. Hébreux chapitre 1, verset 3, si ça apparaît, comme ça vous l'aurez bien en tête. J'ai l'œuvre de la croix. C'est Hébreux chapitre 3, verset 1. L'œuvre de la croix, c'est la purification de nos péchés. Et pourquoi est-ce que le Seigneur est venu pour nous purifier de tout péché? Pour que nous puissions avoir accès à cette vie dans les choses célestes. Alléluia, le royaume de Dieu. Amen. Si nous ne sommes pas lavés, purifiés, pardonnés, rétablis, réconciliés, Dieu ne peut pas régner sur des choses impures. Je voudrais d'abord dire quelque chose à quelqu'un. Dieu t'aime, mais il n'aime pas ton péché. Et si tu veux que Dieu te bénisse, il faut te séparer de ton péché. Et si ce péché, c'est plus fort que toi, Jésus a la puissance de te libérer, de te délivrer. Alléluia. Mais ne prends pas pour prétexte que Dieu est amour pour dire « mais Dieu va me bénir quand même ». Non. Dieu t'aime, mais il ne bénira pas une volonté qui s'obstine à marcher en rébellion contre lui. Certainement, il te protégera, il interviendra pour que tu n'ailles pas plus loin, mais même la patience de Dieu a des limites. Alors si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur et dis « Seigneur mon Dieu, libère-moi de mon péché, Seigneur, je veux marcher dans tes voies et je veux que tu règnes ». Parce que le but du Seigneur, c'est que nous puissions vivre ici-bas sur cette terre les choses d'en haut. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et si vous analysez le ministère terrestre de Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Les malades sont guéris, les démons sont chassés, les péchés sont pardonnés, la vieille nature, elle est crucifiée, etc. Mais c'est la vie céleste sur la terre. Alléluia! C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on est heureux, c'est que déjà, sur la terre, on vit les choses d'en haut. Alors, ce sont des arts, comme dit l'Écriture, ce sont des arts, des choses à venir, parce qu'il y a encore des larmes, il y a encore des souffrances, mais on a une joie. Alléluia. Je vis dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu entends cet appel? Est-ce que tu entends cet appel, peut-être, à être plus sérieux, à te donner entièrement à ces choses? Jésus a appelé ses disciples et les a élevés avec lui sur cette montagne et ils ont découvert une chose, c'est la bénédiction céleste. Parce que quand on s'approche de Dieu, c'est mon deuxième point, la bénédiction céleste. Bien sûr, le Seigneur veut nous voir. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Jésus veut vivre avec nous. Amen. Il veut que nous soyons dans sa proximité immédiate. J'ai noté dans Colossiens au chapitre 1er et au verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jésus veut être en nous. Je passe sur certaines références, Éphésiens chapitre 1er, verset 16, qu'il habite en vous dans l'être intérieur, etc. etc. Mais c'est une bénédiction qui appartient à ces réalités célestes que Dieu veut nourrir avec nous une intimité. Il nous aime, alléluia. Il nous aime. Et c'est pour cela qu'il nous a pardonné, pour que nous soyons dans sa présence, alléluia. Il ne veut pas que tu sois loin, il veut que tu sois prêt. Même Pierre. Pierre à qui Jésus a fait quand même un reproche. J'aurais pas aimé être à sa place. Hein. Vous aimeriez, vous, que de publiquement, le Seigneur vous dise, arrière de moi, Satan, je ne saurais pas où me mettre. Hein. Et vous hein? Qu'est-ce que t'en penses, Ludovic? Et ouais, hein? Mais c'était obligé qu'il soit repris parce qu'il s'oppose à la croix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne comprend pas ces choses. Alors c'est pour ça que le Seigneur. Mais on voit une bénédiction céleste. C'est que nous avons en Jésus, c'est que malgré toutes nos faiblesses, mais le Seigneur a tout accompli afin que nous puissions vivre dans cette proximité, mais malgré nos insuffisances, malgré notre incompréhension de beaucoup de choses, le Seigneur nous fait monter auprès de lui, alléluia, et il nous dit, mais tu es dans ma présence, amen. Ça veut dire quoi? Et c'est un thème que j'aime beaucoup, et une épître que j'apprécie particulièrement, c'est l'épître aux Hébreux qui présente Jésus justement dans son ministère céleste. Claude, c'est que nous avons en Jésus un souverain sacrificateur. Et l'Écriture nous dit, qu'est-ce que c'est un souverain sacrificateur? Un médiateur, un avocat, quelqu'un qui intercède pour nous, alléluia, pour nous faire entrer toujours pur et triomphant dans sa présence, seulement si nous nous confions en lui, alléluia, si nous abandonnons entre ses mains. Le point capital, Hébreux chapitre 8, verset 1er, de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine. Le but de Jésus actuellement, c'est que tu reçoives ces bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Alléluia. Je lisais tout à l'heure, en faisant ces réflexions, j'ai noté dans l'Épître aux Éphésiens, je vous donne plusieurs références, mais au chapitre 1er, au verset 3, dans la version Parole de vie, Dieu nous a bénis dans le Christ en nous communiquant, les dons de son Esprit qui viennent du ciel. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, Dieu nous communique les choses d'en haut, les choses qui viennent du ciel, alléluia. La vie, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette joie qui s'exprime dans le cœur du croyant en toute circonstance. Et en réfléchissant à cette médiation au souverain sacrificateur de ce Jésus qui veut que tu sois dans sa présence, qui veut te bénir. Et la première bénédiction, c'est d'être avec lui. Alléluia. Peut-être quelqu'un se pose la question, est-ce que j'en suis digne? Alors, il y a les paroles de ce chant qui me sont revenues. Vous vous souvenez ce chant « Rédempteur adorable » ? C'est un vieux chant. Hein ? Je vous cite une des strophes de ce chant. « Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Dieu est pour nous. Jésus est avec nous, alléluia. Et il t'invite à vivre cette bénédiction d'un homme, d'une femme qui vit dans sa présence. Et c'est quelque chose de glorieux, parce que même si le Seigneur t'a repris, même s'il t'a dit, parce que c'était obligé de le dire, arrière de moi de Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées des hommes. Ben, repens-toi et demande-lui pardon, mais souviens-toi que le mot de Jésus envers toi, c'est toujours « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Alléluia. Il n'a pas mis de côté Pierre, il l'a rétabli, alléluia. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est vraiment une dimension d'amour, d'intimité, parce que dans cette montagne, le Fils fait connaître, bien révèle le Père, et la voix du Père se manifeste. C'est mon Fils. Alléluia. Vous savez que nous savons que Dieu nous aime. Alléluia. Mais peut-être quelqu'un a-t-il besoin de le retrouver, de vivre la douceur de son amour. Et j'insiste pour dire que cette bénédiction céleste, elle dépend pas, elle ne dépendra jamais d'un contexte terrestre. Elle dépend de cette relation, de cette communion. Alléluia. Vous êtes là avec moi ? Le temps passe, mais il y a des textes dans la parole de Dieu qui nous montrent des hommes qui ont vécu cet état de bénédiction, des choses d'en haut. Je pense notamment, encore une fois, à l'apôtre Paul, cet homme de Dieu. Si vous le lisez dans Philippiens au chapitre 4, au verset 4, il exprime une grande quantité du fruit de l'Esprit. Il dit, alors qu'il est en prison, et peut-être quelqu'un n'est pas prisonnier entre quatre murs, autrement vous ne seriez pas là, vous seriez à Maguelone, mais là, ça veut dire que vous êtes des honnêtes gens quand même. Voilà. Mais que le Seigneur bénisse les prisonniers de Maguelone, alléluia, Dieu les aime, amen. Mais, comment dire, on peut être en prison dans ses pensées, prisonnier d'une situation, prisonnier de son passé, etc. Mais il n'empêche, si tu veux monter sur cette montagne, si tu comprends les choses célestes, si tu entretiens cette relation dans laquelle le Seigneur t'introduit, cette vie céleste, tu reçois ici-bas sur cette terre les choses d'en haut. Alléluia! Comment l'expliquer autrement lorsque Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ?» Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Il exprime de la joie, de la douceur, de la foi, de la tranquillité, de la paix. Bref, si vous allez dans Galates 5, 22, vous regardez, il y a le fruit de l'Esprit. Mais comment c'est possible ça ? Mais c'est parce que Jésus est dans ma prison, alléluia. Ou plutôt, mon cœur, il est au ciel. Alléluia. Amen. Et ça, c'est glorieux. Et ça nous amène à considérer nos vies d'une autre façon. On est sur la terre. Je veux vraiment, et certainement, parler à quelqu'un qui passe... Je ne veux pas minimiser les souffrances, minimiser les douleurs, mais les réalités célestes. Elles sont supérieures aux réalités terrestres. Alléluia. Alléluia. Et troisième point que je voudrais aborder avec vous, c'est qu'il y a une bénédiction céleste, mais il y a également un royaume qui est céleste. Un royaume qui est céleste. Cette expression, je la tire encore des Écritures. De Timothée, chapitre 4, verset 18, Paul dit, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume » céleste. Le royaume céleste, ça existe. Et le royaume, ça parle d'autorité, ça parle de puissance, de l'étendue d'une autorité qui s'applique sur tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Et lesquels, eh bien, sont bénis par un Seigneur qui est tout puissant. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, le titre que Jésus possède, c'est le titre de Seigneur. Les Juifs comprennent bien que c'est de la traduction du mot Adonai qui renvoie à la divinité, eh bien, dans l'hébreu, mais également, eh bien, les Grecs comprendront, mais c'est l'autorité suprême parce que dans le monde gréco-romain de l'époque, le Kyrios, le Seigneur en grec, eh bien, c'était l'empereur. Et les chrétiens étaient en train de dire, mais le Seigneur, celui qui règne sur toutes choses, celui qui a reçu du Père toute autorité, devant qui tout genou fléchira sur la terre, dans le ciel et sous la terre, c'est Jésus-Christ qui a reçu eh bien, le nom, le titre de Seigneur. Alléluia. Il règne, il a vaincu la mort. Et mes frères et sœurs, on sait que lorsque les persécutions vont commencer, on va s'attaquer aux chrétiens en leur disant « Mais c'est qui ton Seigneur ?» D'ailleurs, dans Actes 17, au verset 7, il est dit il y a une persécution dans l'église de Thessalonique. Et il dit ceci. Allez, on va le lire parce qu'autrement, je vais. Vous êtes. Allez, Actes 17. Vous avez vos Bibles de toute façon. Hein. Allez, Bénédicte. Fais chauffer l'ordinateur. Voilà. Acte 17, verset 7. Et voilà, c'est bien Thessalonique, oui, voilà, je ne me suis pas trompé. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus, et littéralement un autre Seigneur, Jésus. Et par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats. Et vous savez que dans les premiers temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, bon, ce titre de dire de Jésus-Christ, eh bien, qu'il était le Seigneur, ça causait de nombreux soucis aux chrétiens, mais c'était la vision que les chrétiens avaient de Jésus. Si vous voulez entrer dans cette espèce de débat qui n'en est pas pour moi, de dire ouais, il faut qu'il y ait des crèches, etc., bon, libre à vous. Hein. Mais moi, mon Jésus, ce n'est pas un petit bébé. Hein. Mon Jésus, il est ressuscité, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Faites-vous une représentation de, je répète, Apocalypse chapitre 1, Jésus, une épée qui sort de sa bouche, des pieds en airain qui sont en fusion, des yeux comme des flammes de feu qui ne peuvent supporter le mal. Mais c'est le Jésus glorieux, alléluia. Le Seigneur qui s'est abaissé, qui s'est humilié, comme on l'a chanté, jusqu'à la croix, qui a porté nos péchés, méprisé, rejeté, mais ressuscité, triomphant et glorifié, et qui revient. Alléluia, nous sommes dans les temps de la grâce. Il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent, mais il jugera le monde qu'il aura rejeté. Il a le droit de le juger, ce monde, c'est le sien. C'est lui qui l'a créé. Et mes frères et sœurs, les chrétiens du Nouveau Testament, c'était la vision de ce Jésus-là. Je voudrais te poser cette question. Est-ce que tu as cette vision-là? Est-ce que tu as la vision aussi que c'est à lui que tu rendras des comptes? Ça devrait peut-être nous faire réfléchir sur tout un tas d'attitudes que nous avons, de réflexion, de pensée, dans ce que nous regardons, dans ce que nous lisons, avec qui nous parlons et de quoi nous parlons. Nous avons besoin, sans tomber dans une culpabilité excessive, mais de nous souvenir qu'il est le Seigneur, que rien ne lui échappe. Et je crois que nous l'avons parlé il y a quelques mois en arrière. Eh bien, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Et ces chrétiens du premier siècle, avaient compris que Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Ils n'ont pas à craindre les hommes. Tu n'as pas à craindre les hommes. Et même l'Écriture nous dit, enfin plutôt, ces hommes étaient tellement avancés dans leur compréhension de la gloire du Seigneur, du royaume céleste, qu'ils pouvaient dire avec assurance, je peux mourir, vous pouvez même me tuer, mais vous n'êtes pas les maîtres de ma mort. Celui qui est maître de ma mort, c'est Jésus, et je sais où je vais. C'est pour ça que je voulais vous donner ce témoignage. C'est un témoignage qui appartient à l'histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un certain Polycarpe. Polycarpe, c'est la troisième génération de serviteurs de Dieu, de disciples. Première génération, c'est Jean. Il a connu Jean, Polycarpe. C'était Polycarpe, si vous voulez, c'était un peu le stagiaire de Jean. Voyez. Et puis, il a eu un autre stagiaire, Polycarpe, c'est Irénée, le fameux Irénée de Lyon. Voyez. Et il a été persécuté. Et à l'âge de 86 ans, dans l'église de Smyrne, vous savez, l'église de Smyrne, Apocalypse, au chapitre 2, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et le proconsul dira, aie pitié de tes cheveux blancs, maudis le Christ et tu seras libre. Maudis le Christ. Vous savez, il y a des choses aussi qui sont comme ça à l'heure actuelle. Hein. Réponse de Polycarpe, il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. Alors lui, il n'a pas craint, comme dit l'Apocalypse, hein, de mourir. Il a donné sa vie. Je me pose cette question, est-ce que Seigneur, je t'aime à ce point pour accepter de mourir pour toi, Seigneur? l'occasion ne s'en présente pas, mais on a des frères et sœurs qui sont dans cette situation, qui ne craignent pas de mourir plutôt que d'être infidèles au Seigneur. Mais d'où vient leur force ? Il est le Seigneur. Les choses d'en bas, ça dure un temps, c'est terrestre, t'es proconsul pendant un temps, t'es chef d'entreprise pendant un temps, t'es monsieur un tel pendant un temps. Ça dure pas longtemps, ça. Et vous le savez, vous qui avez de l'âge, ça dure pas longtemps. Mais le royaume de Dieu, il est éternel, alléluia. Moi, je peux pas maudire le Seigneur, je veux pas trahir Jésus, mais enfin, ça serait fou. Je veux marcher avec toi, Seigneur, la puissance de céleste de Jésus-Christ, alléluia. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous anime, alléluia. Nous redonne de la vigueur spirituellement parlant et que nous puissions rechercher ensemble la puissance du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, alléluia. Pour dire, je n'ai pas peur de ce que les autres peuvent penser dans ma classe, au collège, au lycée, à la fac, même dans ma famille. C'est toi, Seigneur, que je veux servir. Et mon quatrième point, et c'est le dernier, il y a un bonheur céleste. Alors, je ne sais pas s'il y a des Alsaciens au milieu de nous, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Hein. C'est, eux, ils disent le bonheur céleste. Mais bon, vous réfléchirez. Hein, voilà. Mais le bonheur céleste, eh bien, c'est de vivre cette vie céleste. Et vous avez remarqué, quand ils descendent de cette montagne, ils ont vu le Seigneur dans sa gloire, ils parlent avec Jésus. Allez, vous racontez pas cette vision avant que je sois ressuscité d'entre les morts. Puis, bon, on a passé, mais dis-nous, Jean-Baptiste, l'Élie, tout ça, qui devait venir. Ben voilà, y a une espèce de sagesse qui se fait. Parce que, et on voit ses disciples, par rapport aux autres, ils ont quelque chose en plus. Les autres, ils aiment le Seigneur. Vous savez, les 9 autres qui sont restés dans la vallée, ils aiment le Seigneur, ils prient, bon, ça ne marche pas, mais ils aiment quand même Dieu. Mais les autres, ils ont quand même quelque chose en plus. Ils sont heureux de marcher avec le Seigneur parce qu'ils l'ont vu ressusciter. Ah, mais bien sûr, les choses, ça va s'accomplir. Les souffrances, le reniement, les trahisons. Mais mon frère, ma sœur, je ne peux pas te dire que dans ta vie avec le Seigneur, tu ne vas pas rencontrer des épreuves. Tous ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, c'est la vérité. Mais je peux te dire que tu peux avoir un bonheur dans le cœur. Une sagesse qui vient d'en haut. Tu sais où tu vas. Alléluia. Tu marches avec le Seigneur. Il a déjà tout vaincu. Mes chers frères et sœurs, je crois que vraiment la sagesse et l'intelligence, et peut-être je m'adresse à quelqu'un. Est-ce que tu n'aurais pas oublié, dans ta situation, d'en parler au Seigneur, d'adresser à Jésus ton problème ? Il y avait un pasteur assez important, un pasteur canadien, qui parlait de certaines difficultés de construction de salles avec un pasteur qui est parti dans la gloire, c'était le pasteur David Wilkerson. Et ce frère explique qu'ils étaient en train de manger ensemble, restaurant, le steak. Alors il lui explique son projet, mais il également les difficultés. Il dit, mais c'est vraiment compliqué, je ne comprends pas comment ça bloque, etc. Et le pasteur Wilkerson a posé cette question. Dis-moi, est-ce que tu as prié le Seigneur ? Et là, il y a eu un silence. C'est-à-dire, on entendait uniquement le couteau dans l'assiette. Parfois, on pense que parce qu'on a des projets pour Dieu, pense que parce qu'on marche avec le Seigneur, que forcément, il y a une chose qui... une espèce d'habitude, une religiosité. Mais est-ce que tu n'aurais pas oublié, dans ta marche, de te confier, de tout remettre entre les mains du Seigneur, comme tout à nouveau, de t'en remettre, eh bien, de te soumettre aux réalités célestes, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Amen. Alors, toutes ces choses sont là pour nous inviter à marcher de progrès en progrès, et je le répète, afin que nos esprits soient peut-être désembués eh bien de cette fumée, de ces pensées qui sont d'ordre terrestre, et de nous inviter à considérer les choses célestes, alléluia, une vocation céleste. Le Seigneur t'appelle à regarder plus haut et à monter sur cette montagne, avoir des temps eh bien, de prière, de qualité où le Seigneur va te restaurer une bénédiction céleste parce qu'il t'aime, alléluia, et il t'accueille, amen, il ne te repousse pas, ce n'est pas que pour certains d'entre nous, mais c'est pour chacun, alléluia, le Seigneur veut nous bénir personnellement, et puis c'est un royaume, une puissance qui se manifeste, alléluia, dans la vie de celles et ceux qui croient, même si tu ne t'en rends pas compte, Dieu est là, il te protège, alléluia. Tu t'es dit, mais comment ça se fait qu'il y a eu cet accident avant, derrière? Moi, Dieu était là, alléluia, il t'a protégé. Et puis, non seulement cela, mais une sagesse qui te rend heureux. Je sais où je vais. Il y a une cité céleste qui m'est préparée, alléluia. Et Seigneur, je me conduis de telle sorte pour y aller. À toi la gloire, amen. Alors, je voudrais qu'on puisse simplement terminer en se remettant entre les mains de Dieu, alléluia, en disant, Seigneur, eh bien, je veux être rempli de ces réalités célestes. Seigneur, à toi la gloire, mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, ta parole, elle est merveilleuse et tu nous dis, Seigneur, que Seigneur, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et tu es venu sur cette croix pour que les réalités célestes s'imposent aux réalités terrestres. Seigneur, nous t'avons vu faire des miracles. Là où la maladie gagnait, toi tu l'as arrêté. Seigneur, nous t'avons vu faire des choses extraordinaires. Là où l'alcoolisme, là où la drogue amené à la destruction, toi tu as mis un frein et tu as tout arrêté. Et Seigneur, tu as pardonné, tu as guéri, tu as restauré. Alléluia. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser, Seigneur, influer. Nous sommes dans le monde. Nous avons besoin d'être au courant de tout ce qui se passe dans ce monde. Mais Seigneur, nous avons besoin d'être au courant, Seigneur, des réalités célestes où tu règnes. Et je te prie afin que mes frères, mes sœurs, moi-même, Seigneur, peut-être, Seigneur, nous remettions en question pour dire, Seigneur, est-ce que je suis informé, Seigneur, des choses d'en haut, des choses de Dieu, des choses spirituelles, des choses de l'Esprit. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Et combien, Seigneur, dans les temps que nous vivons, nous avons besoin d'être régénérés, d'être renouvelés. Père céleste, Seigneur, tu reconstruis également. Seigneur, tu renouvelles la vie de quelqu'un au milieu de nous. Et Seigneur, tu lui dis, ne regarde plus comme cette femme courbée aux choses d'en bas, mais je te relève, je te délivre, et tu peux voir ma gloire. Alléluia. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons. Je voudrais m'adresser peut-être à quelqu'un qui est comme hypnotisé par les choses d'en bas, parce que le diable sait y faire et rendre beau des choses qui sont empoisonnées. Demande au Seigneur de voir avec un regard céleste, que le Seigneur, que tu puisses faire le tri en mesurant le danger des choses qui t'attirent. Que le Saint-Esprit t'aiguille, place une conviction dans ton cœur. Seigneur, nous te remercions encore dans le beau nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen.